Chacun a regagné son groupe, nous allons pouvoir donc commencer. Je rappelle qu'après avoir cerné l'idée de la justice que l'Écriture nous enseigne, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la question de la réalisation de la justice. Comment cette ordonnance appropriée des éléments d'un ensemble, surtout des éléments d'une conduite, qu'on appelle la justice, se réalise-t-elle effectivement? Comment cet ajustement, comme il convient, cesse-t-il d'être simplement un idéal qui permet de dénoncer les injustices et vient s'inscrire dans l'expérience même? J'ai prévu de lire plusieurs passages de l'Épître aux Romains qui nous permettront d'évoquer, non peut-être tous les aspects, mais un assez grand nombre d'aspects du sujet, et nous aurons une idée de la progression de la pensée inspirée de l'apôtre en lisant ces fragments successifs. Je vais donc lire toute une série de textes dans l'Épître de l'apôtre Paul aux Romains, et quand j'aurai fini cette lecture, nous demanderons au Seigneur son aide. Est-ce que Mademoiselle Poupon voudrait nous conduire après que j'aurai lu la Bible dans la prière? Donc je commence par le verset qui résume toute l'épître au chapitre 1er de l'épître aux Romains, versets 16 et 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Puis je lis au chapitre 2 un élément de la démonstration de l'apôtre concernant la culpabilité de tous les êtres humains. Au chapitre 2, les versets 5 à 8, il apostrophe un auditeur supposé, « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle, à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. » Et puis, au chapitre 3, d'abord les versets 5 et 6, « Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il donne cours à sa colère? Je parle à la manière des hommes. Certes, non. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? » Puis ensuite, un morceau tout à fait central, décisif et un peu plus long, à partir du verset 19, chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Nous savons que tout ce que dit la loi, il vient de citer de nombreux passages de l'Écriture, loi de Dieu, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, la Bible à la Colombe a rajouté « reconnu » entre parenthèses devant, mais c'est littéralement de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Puis je continue au chapitre 4, versets 4 à 8. À celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice, sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Puis je saute au chapitre 6, avec le verset 15. Quoi donc ? Pécherions-nous ? Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Puis au chapitre 8, je lis les 4 premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et puis je lis encore, ce sont les derniers versets au chapitre 13, les versets 6b à 8. Ceux qui gouvernent sont au service de Dieu, pour cette fonction précise qu'il vient d'évoquer, de la répression du mal. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Jusqu'ici, donc, la lecture de passage de la parole de Dieu. Prions ensemble, Mademoiselle Poupon nous conduit. Où, comment la justice devient-elle réalité? Le présupposé que je ne vais pas développer, c'est que la justice est d'abord pleine et parfaite réalité en Dieu. Comme le cantique de Moïse au chapitre 32 du Deutéronome, verset 4, l'affirme, il n'y a aucune injustice en lui. Dieu est le Dieu parfaitement juste, le rocher sans fissure, lumière sans aucun mélange de ténèbres. Dieu est juste en toutes ses voies, Dieu est juste en lui-même. Nous n'allons pas reprendre ce point, je le considère comme le fondement de tout ce que nous pouvons essayer d'ajouter. Mais je vais essayer de résumer l'enseignement que je crois biblique selon trois grands axes. Comment se réalise la justice dans le rapport de Dieu au monde, dans le rapport de Dieu aux élus et dans la conduite des croyants. Je signale qu'il va y avoir, je pense forcément, quelques chevauchements avec l'enseignement que notre pasteur, M. Jean-Charles, nous a dispensé la semaine dernière dans son sermon. Son sermon, parce qu'il suit le texte de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, a traité de la cuirasse de la justice, et il a en fait parlé sur plusieurs des points que nous devons reprendre. Mais je ne pense pas que ce soit un inconvénient. Je crois que nous avons tous besoin de nous entendre répéter les choses fondamentales. L'apôtre Paul répétait, et il disait à ses lecteurs que ça leur était salutaire, pour que ça finisse par entrer. Nous avons besoin souvent que Dieu nous parle plusieurs fois. Et donc je pense que la complémentarité entre le message de la fois dernière et ce qui était prévu, donc je n'ai pas voulu changer, pour cette classe d'institut biblique, que cette complémentarité sera positive. Donc d'abord, dans le rapport de Dieu au monde, nous avons distingué, vous vous le rappelez, la justice rétributive, Dieu rend à chacun selon ses œuvres, ce qu'il a mérité, selon son dû, et la justice attributive de Dieu, une justice qui confère divers biens, et avec le niveau suprême de la justice attributive comme justice de salut, justice qui restaure là où il y avait un manque criant, désastreux. Alors d'abord, la justice rétributive de Dieu dans son rapport au monde. C'est très simple, mais c'est un grand, grand thème de toute la Bible. La justice rétributive du juge de toute la terre, comme Abraham appelait le Seigneur, nous l'avons lu la fois dernière, se réalise dans ses jugements. Et la Bible ne cesse de nous les annoncer avec solennité, et dans les textes que nous avons lus au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, le jugement est évoqué dans des termes très impressionnants. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, tribulation, angoisse à toute âme qui fait le mal, qui se complaît dans le mal, qui résiste à ses appels. Or, quelques précisions à propos de ce thème, ce premier thème qu'il faut mentionner, de la justice rétributive réalisée dans le jugement. C'est au jour du Seigneur que la juste exigence sera comblée. Le jour du Seigneur, c'est le jour où il règle ses comptes, tous les comptes, non pas au sens vulgaire, au sens vraiment conforme à la notion de la justice. Il est impossible que Dieu, qui est parfaitement juste, laisse faire indéfiniment ce qui se fait d'horreur, d'abomination, qu'il laisse bafouer la sainteté de sa perfection. Nous demandons au Seigneur jusque à quand. Le Seigneur nous dit qu'un jour vient où il jugera le monde avec justice. Cela, c'est précisément le jour qu'il se réserve. Il y a un jeu souvent sur cette désignation. Le jour, il s'agit d'un moment du calendrier. Il s'agit d'un point dans le temps vers lequel le temps s'écoule. Mais il s'agit aussi du jour opposé à la nuit. Il s'agit du lever du voile, le grand dévoilement. L'histoire se déroule dans une sorte de pénombre. On ne voit pas que le Dieu de vérité est le Dieu de parfaite justice et qu'il aura le dernier mot. Et les choses se font dans le crépuscule, mais la pleine lumière brillera et tout ce qui s'est passé apparaîtra dans sa vérité. Ça, c'est le jour du jugement qui nous est annoncé et qui vient. Nous sommes plus près, dit l'apôtre Paul, de ce jour que quand nous avons cru. C'est pas juste une idée, vous voyez, une image. Chaque jour du calendrier, chaque heure qui passe, nous rapproche du jour du Seigneur. La rétribution, le salaire du péché, que ce jour permettra à Dieu de donner aux conduites impénitentes, cela inclut le châtiment éternel. Et là aussi, je ne peux pas, pour être fidèle à la Bible, taire ce point. Oui, la Bible nous enseigne que ceux qui auront jusqu'au bout refusé la chance de salut que la prédication de l'Évangile leur apporte, et je crois qu'on peut plaider que même ceux qui n'ont pas entendu un missionnaire ont quelques reflets de cet évangile dans la révélation de la providence de Dieu, que ceux qui auront jusqu'au bout refusé cette chance ne cesseront pas d'exister, n'auront pas de deuxième chance non plus, mais connaîtront ce que la Bible appelle le châtiment éternel, la seconde mort, les ténèbres du dehors, l'étang ou le lac ardent de feu et de soufre. C'est une allusion au châtiment de Sodome et Gomorre. Là où le ver ne meurt pas, le feu ne s'éteint pas. Voilà ce que la Bible révèle et que nous n'avons pas le droit d'omettre, même si aujourd'hui bien des gens sont très peu préparés, c'est le moins qu'on puisse dire, à accueillir une pareille révélation. Il nous faut, je pense, user de sagesse dans la manière de communiquer. Et bien sûr, le Moyen-Âge a brodé et a eu des tas d'images qui, elles, ne sont pas bibliques à ce propos. Et entre autres, par exemple, il faut souligner que Satan n'est pas du tout le dieu des enfers. Satan, c'est un lieu préparé pour le châtiment de Satan. L'enfer, c'est un lieu préparé pour le châtiment du diable, où il sera jeté avec le faux prophète et l'antichrist. Mais il reste que le châtiment éternel est une réalité à venir, dont il faut être conscient et que nous ne pouvons pas effacer de notre Bible. Il y a cependant, troisième précision, des jugements qui s'exercent au cours de l'histoire. La Bible nous montre aussi que Dieu rétribue les actes mauvais également par le moyen des désastres, des invasions. Il envoie les Chaldéens après les Assyriens comme le bâton de sa colère pour administrer sa justice. Donc, nous devons tenir compte aussi du fait que dans l'histoire, ce qui arrive n'arrive pas d'une manière qui est complètement déconnectée des exigences de la justice de Dieu. Il y a cette dimension à ce qui se produit. La justice de Dieu s'exerce, y compris aussi, puisqu'il est question de famine, de sécheresse dans certains textes prophétiques, y compris aussi dans ce qu'on appelle des fléaux naturels. Il est d'ailleurs très difficile, au stade que nous avons atteint de l'histoire en tout cas, de démêler clairement les fléaux naturels de l'action des êtres humains et des conséquences donc de leurs actes fous, orgueilleux. Les écologistes ont raison sur ce point-là. Beaucoup des choses qui concernent par exemple les ravages des changements climatiques sont liées aux conduites humaines, mais la Bible nous invite à y voir aussi un accomplissement des jugements de Dieu. Alors ces jugements qui s'exercent au cours de l'histoire sont très très partiels. Dieu les fait entrer dans le calcul total. Mais justement, c'est au jour dernier qu'il règle tous ses comptes. Et la Bible nous dit très très clairement que si Dieu exerce certains de ses jugements dans l'histoire, les méchants aussi peuvent aller prospérant tranquillement, sans s'en faire, sans que les jugements s'abattent sur eux dans le cours de leur vie. La Bible ne masque pas du tout ce fait. Et c'est valable pour les individus, et c'est valable pour les collectivités, pour les nations. Et justement, c'est le dernier point que je souligne sur cette justice rétributive se réalisant aussi bien dans l'histoire qu'à la fin de l'histoire. Le jugement vise au bout du compte les individus. C'est une insistance qui me semble assez forte. Dans l'Épître aux Romains encore, j'aurais pu lire ce verset en supplément au chapitre 14, mais c'est juste un des versets qui touche ce point. Paul dit, 14-12, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Au bout du compte, ce sont les individus qui sont responsables devant Dieu. Mais les individus ne sont pas de purs individus. Ou comme l'a dit un prédicateur d'ailleurs, un pasteur, mais aussi un grand poète anglais, « Nul n'est une île ». Dans le poème qui a donné son titre au grand roman de Hemingway, « Pour qui sonne le glas ?» C'est dans ce poème, il dit « Quand tu entends le glas qui sonne, ne demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. » Parce que nous sommes même au plan naturel, tous les humains, membres les uns des autres. Nul n'est une île. Nous sommes des individus, chacun avec une relation particulière au Seigneur, une responsabilité irréductible, d'où cet enseignement, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, ou comme dit Paul dans un autre passage, chacun portera son propre fardeau, mais ça ne veut pas dire que nous soyons de purs individus, nous sommes effectivement liés au groupe dont nous faisons partie, et c'est pourquoi Dieu tient compte aussi de certains aspects collectifs de la responsabilité. Et il le fait dans ses jugements. Jésus a rappelé que les bourgades de Capernaum et Bethsaïda seraient traitées au jour du jugement plus sévèrement que Ninive. Il y a un aspect collectif. Ça ne veut pas dire, je crois, qu'il y aura un jugement sur la ville comme ville. Mais les individus, au jugement, seront jugés aussi pour leur conduite de citoyens, en fonction de cette appartenance à des groupes qui ont une réalité, qui ne sont pas de simples additions, qui ont une réalité. Et nous sommes co-responsables toujours à quelques degrés. Même si nous n'avons rien fait, avons-nous fait assez pour empêcher? Nous sommes co-responsables de ce que nos cités et notre pays a fait, et fait aujourd'hui encore. Même si nous sommes dans l'opposition, ça ne nous dégage pas de toute responsabilité. Il y a une solidarité. Et on peut dire sans doute que dans les jugements historiques de Dieu, une grande partie concerne cette dimension collective de la responsabilité des personnes. Certes, Dieu exerce aussi des jugements sur les individus, la Bible le montre bien, mais probablement, ce qui est davantage au premier plan, c'est l'aspect collectif, avec des enchaînements que la Bible a très très bien révélés. L'orgueil va au-devant de l'écrasement, et pratiquement tous les peuples qui ont opprimé les autres, qui dans leur arrogance ont constitué des empires, l'ont payé très cher à l'échelle de l'histoire. Donc la justice rétributive de Dieu réalise une part de ce qu'est la justice. Dans son rapport au monde, voit-on aussi se réaliser la justice attributive de Dieu. Il me semble qu'on peut répondre oui, même si le thème n'est pas aussi évident dans la Bible. Dieu prend soin de toutes ses œuvres. Il donne aux créatures diverses ce qui leur convient. Il agit ainsi avec justice. Le plus souvent, les textes parlent de sa bonté, de sa générosité, de sa bienveillance, de sa miséricorde, à ce propos, ou de sa fidélité. Mais j'ai au moins trouvé un verset où le mot de justice est employé à ce propos, donc je pense que nous pouvons dire qu'il y a aussi une réalisation de la justice attributive de Dieu. C'est au psaume 145, au verset 17, après le verset 16. Tous avec espoir tournent les yeux vers toi, c'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste en toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. Donc il me semble que nous pouvons dire que dans cette générosité du Créateur et du Dieu de la Providence, nous avons un exercice de sa justice attributive qui va au-delà de tout mérite humain, puisque comme Jésus le souligne, Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes, Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. C'est la justice attributive, généreuse de Dieu. Et à ce propos, je voudrais faire une remarque. Elle se rattache à ce que nous avons en fait déjà touché dans un précédent institut biblique qui concernait la vision de l'économie, mais il faut peut-être y revenir quand même. Certains économistes et certains penseurs, je pense, on peut citer tout spécialement Jean-Paul Sartre, ont privilégié l'idée de rareté en disant les ressources sont rares. Et c'est là le point fondamental à partir duquel il faut concevoir une théorie économique. Et je suis gêné par cet accent. sur la rareté. Certes, toutes les ressources sont rares dans ce sens qu'elles ne sont pas infinies. Elles sont toutes limitées. Et par rapport au mauvais infini du désir humain, le désir insatiable, toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est sûr qu'elles peuvent sembler rares. Mais la perspective de la Bible est qu'elles sont pleinement suffisantes, que Dieu est généreux, qu'il donne bien plus qu'il n'en faut pour que l'humanité prospère sur la terre, soit heureuse sans conflit pour l'appropriation des ressources, si l'humanité exerce avec sagesse et responsabilité son mandat de gérer la création, il n'y a pas de rareté à craindre. Cette rareté, là où elle devient pénible et donne donc occasion de guerre, c'est une conséquence du péché humain. Je crois que c'est une chose qui mérite d'être soulignée dans la perspective de la Bible. Cette justice attributive va-t-elle jusqu'à la restauration du salut? Justice salvatrice, la justice attributive au carré, en quelque sorte. Il me semble que dans le langage de la Bible, cela ne joue pas dans le rapport de Dieu au monde, mais cela joue dans le rapport de Dieu à ses élus dans le monde. Alors en un sens, c'est l'amour de Dieu pour le monde, parce que les élus représentent aussi le monde pour Dieu. Nous sommes ses créatures. Mais lorsqu'il s'agit de la justice salvatrice, de la justice de salut de Dieu, c'est plus spécialement des élus qu'il est question. Et je passe donc au deuxième volet, qui est celui du rapport de Dieu aux élus. Mais avant de passer à la justice salvatrice, considérons la justice rétributive. Est-elle absente? Je ne pense pas. Elle est présente, en tout cas, sous cette forme, qu'on pourrait dire avantageuse pour les élus, de la délivrance des fidèles grâce aux interventions de la justice rétributive de Dieu contre leurs oppresseurs. C'est un thème, de nouveau, qu'on rencontre assez souvent dans la Bible. Dieu juge les ennemis, les tyrans, qui oppriment ses élus. Et vous vous rappelez cette parole de Jésus à la fin de la parabole de la veuve persévérante et du juge inique. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas promptement justice à ses élus? Donc il s'agit d'une délivrance que la justice rétributive implique de la part du Dieu justicier pour ceux qui étaient innocents ou relativement innocents et victimes d'injustices graves. Quant aux fautes des élus, parce que nous ne pouvons pas ignorer qu'ils en commettent aussi, là ça devient nettement plus délicat à traiter, et je vais y revenir d'ailleurs dans quelques instants. Je crois qu'on doit dire qu'il y a une certaine correspondance. C'est aussi pour les élus qu'il est dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, et qu'au jugement dernier, au dernier jour, Apocalypse 20, versets 12 et suivants, des livres seront ouverts et que chacun, les élus semblent inclus, seront jugés selon leurs œuvres. Et nous devons tous comparaître au tribunal de Christ et recevoir selon ce que nous aurons fait par le corps, soit en bien, soit en mal, dit l'apôtre Paul. Dans cette correspondance, il y a quelque chose qui relève, me semble-t-il, de la rétribution. Alors il s'agira de l'expliquer un peu plus précisément dans quelques instants, mais il faut quand même enregistrer cette donnée de l'Écriture. S'il y a donc un exercice de la justice rétributive qui concerne spécialement les élus, la grande nouvelle, vous le savez, au centre du message biblique, c'est celle, la nouvelle du dépassement de la justice rétributive, de l'attribution inouïe d'une justice qui n'est pas notre propre justice, celle dont nous pourrions faire état en disant j'ai fait ceci, j'ai fait ci, j'ai fait cela, mais une justice qui est justice de Dieu, provenant de Dieu, comme un cadeau en Christ. Et l'apôtre Paul, à propos du don de cette justice, qui s'appelle justification, acquittement au tribunal de Dieu, va jusqu'à un paradoxe assez violent. Nous l'avons lu tout à l'heure, il est question du Dieu qui justifie l'impie. Au chapitre 4 de l'Épître aux Romains, il est question donc de celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Mais ça représente la contradiction de ce que Dieu avait clairement enjoint aux juges terrestres qui doivent œuvrer à l'image de sa justice, leur avait enjoint de faire. Vous justifierez l'innocent et vous condamnerez le coupable, l'impie. La loi était tout à fait claire. Il s'agissait, pour exercer la justice rétributive comme il faut, de condamner ceux dont la conduite était mauvaise, qui n'avaient pas fait d'œuvre juste, mais le contraire. Or, Dieu, alors qu'il a donné cet ordre, qu'il est le juste juge, justifie les impies, ceux qui l'ont nargué, ceux qui ont bafoué ses commandements, transgressé ses préceptes. Mais c'est un paradoxe incroyable. Il justifie non pas l'homme pieux, non pas celui qui a obéi au maximum de ses possibilités, il justifie l'impie. Et à partir de là, l'apôtre peut lancer cette proclamation extraordinaire. Il n'y a plus désormais aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Quoi que nous ayons fait, plus aucune condamnation. Parce que nous sommes revêtus, comme nous l'avons chanté, et revêtus de la justice de Christ. Nous sommes revêtus d'une justice qui ne vient pas de nous, qui est parfaite. Et quand le Seigneur nous regarde, c'est cela qu'il voit. La découverte de cette justice cadeau, justice attribuée par grâce, ça a été le pivot de l'expérience de Luther. Vous vous rappelez ce que Luther lui-même a raconté. Il était labouré par le souci de son salut. Il s'était fait moine pour espérer atteindre enfin à l'apaisement de sa conscience, et plus ça continuait, plus il se dépensait en moinerie, mortification, jeûne, moins il se sentait vraiment rassuré devant à la pensée du jugement de Dieu. Et lorsqu'il lisait la justice de Dieu, il tremblait, parce qu'il pensait à la justice rétributive de Dieu. Et puis, tout à coup, en lisant l'Épître aux Romains, il avait été un peu préparé déjà par les psaumes, il s'est rendu compte que la justice de Dieu qui se révèle pour la foi, mais c'est pas du tout la justice du juge qui nous condamne, c'est la justice que Dieu nous donne. Sans la loi, la justice de Dieu est révélée. Et ça a été le grand bouleversement pour Luther et pour toute la Réformation, ce qui a secoué toute la chrétienté au XVIe siècle, et dont nous sommes les héritiers. C'est ça le grand message de la justification par la foi. Alors, quelques précisions pour éviter les malentendus. Je vais vite, je résume, mais je crois que ça peut être utile. D'abord, cette justice attributive n'est pas un abandon de la justice rétributive. Il ne s'agit pas pour Dieu de dire « Oh, je suspends cette exigence que le salaire du péché lui soit versé. Je trouve que c'est inférieur finalement d'exiger que la justice passe. Je suis généreux à la place. » Il ne s'agit pas du tout de cela d'après le témoignage de l'Écriture. Il ne s'agit pas de dévaluer l'exigence rétributive. Elle est incluse. C'est parce que cette exigence de la justice rétributive est parfaitement satisfaite que Dieu peut justifier l'impie lui-même. Mais alors comment est-ce que c'est possible? Dieu a trouvé le moyen. C'est l'inouï de sa grâce. Il a fallu que les péchés soient punis, effectivement. Il a fallu que le salaire du péché, qui est la mort, s'exécute. Mais cela s'est fait en la personne du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Dieu lui-même a envoyé son Fils dans une nature humaine semblable à notre nature pécheresse, sauf le péché. Dans une chair semblable à celle du péché, pour le péché, pour qu'il prenne sur lui les péchés, et qu'ainsi Dieu puisse condamner, punir le péché en un homme, mais un homme qui ne l'avait pas mérité, à la place des coupables. C'est ce qu'Ésaïe 53 avait annoncé si clairement. Il a porté nos péchés. Porter les péchés, c'est être puni pour ses péchés. Dans la loi, on a toujours ce refrain. Si quelqu'un fait ceci, fait cela, il portera son péché, ou il portera sa faute. Là, c'est Jésus qui, n'ayant commis aucune faute, a porté nos péchés. Il a été châtié, puni à notre place, de telle sorte que la justice rétributive est pleinement satisfaite. Et c'est le sens, je crois, qu'on ne peut pas le manquer au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, dans le passage que nous avons lu. Comment Dieu pouvait-il être à la fois juste et justifié ? Justifier celui qui est pécheur, c'est pas juste. Comment Dieu pouvait-il être à la fois juste et justifié ? Il l'a fait en venant lui-même prendre les péchés sur lui. Il a disposé Jésus comme instrument d'expiation pour les péchés, de telle sorte que nous sommes rachetés par son sang. Son sang est le prix de toutes nos fautes qui satisfait entièrement la justice de Dieu. Et ça pour nous, et même pour les croyants de l'Ancien Testament, par avance, Dieu avait laissé impunis leurs péchés, parce que ces péchés devaient être placés sur Jésus. Et donc, par la venue de Jésus, par la mort de Jésus, Dieu se montre juste, tout en justifiant ce qui paraissait impossible. Et c'était le ricanement du diable, c'est pas possible. Ce qui paraissait impossible, Dieu l'a réalisé en Jésus. Donc c'est sur le fondement du châtiment substitutif à notre place de Jésus que notre justification gratuite peut être prononcée. D'où la nécessité de la foi. Si c'était une vague indulgence, Dieu oubliant qu'il faut punir les péchés ou quelque chose comme ça, alors là, on ne verrait pas pourquoi ça vaudrait pour les uns et pas pour les autres. Mais c'est en Jésus, il faut être représenté effectivement par Jésus. Jésus l'a fait à la place des siens, comme la tête pour le corps, ou on pourrait dire comme l'époux pour l'épouse. Dans la loi, dans le livre des Nombres, il est question d'un mari qui paie pour sa femme. Il porte le péché de sa femme, dit le texte. Jésus a pu porter de manière juste nos péchés parce qu'il est l'époux de l'épouse. Mais du coup, pour en profiter, il faut faire partie de l'épouse. Pour en profiter, il faut se joindre à lui par la foi. La nécessité de la foi, c'est pas la nécessité d'un prix qui serait quand même à payer par nous. Il a payé tout le prix. Mais c'est la nécessité d'être uni à lui, pour qu'il soit vraiment notre représentant légal, comme il l'a été. C'est ainsi que la nécessité de la foi apparaît. C'est aussi à cause de cette union, de ce qu'implique la foi, qu'il est hors de question de continuer à pécher allègrement, comme avant en tout cas. Pécherons-nous donc, maintenant que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Mais c'est une pensée tout à fait insensée. C'est uniquement par l'union à Jésus que nous pouvons bénéficier de l'œuvre qu'il a faite pour nous, parce qu'il est à ce moment-là notre tête, notre représentant légal. Donc du coup, si nous sommes unis à lui, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme avant. Oui. C'est là la logique que l'apôtre développe au chapitre 6, en particulier de l'Épître aux Romains. Alors je vais encore développer un peu ce point un peu plus tard, mais il faut que j'aborde le point que j'ai laissé en suspens tout à l'heure. Voyez. Que reste-t-il de la justice rétributive alors, dans le cas des élus, des croyants, de ceux qui se sont unis à Jésus-Christ? Il me semble qu'on peut dire trois choses, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé dans mes lectures aussi, dans la Bible et dans mes lectures. D'abord, il n'y a plus aucun paiement légal qui soit exigé. Jésus a tout payé. Son sang est un sang précieux auquel il n'est besoin de rien ajouter pour nos péchés futurs comme pour nos péchés passés. Donc la dette légale, l'obligation de satisfaire la justice, ça s'est écarté. Il n'en est plus question pour les élus de Dieu qui se sont unis à Jésus-Christ, qui l'ont pour chef. Mais, deuxième point, en ce qui concerne les châtiments qui suivent pour l'humanité considérés collectivement, sur un plan où la rédemption n'est pas encore appliquée, alors là, cela continue. Je m'explique, en gros, il s'agit de la mort du corps. Nous attendons encore la rédemption de notre corps. Ce que le Christ nous a acquis n'est pas encore appliqué à notre corps. Dieu peut donner dans sa liberté un signe de cette application future, de la rédemption future du corps. Il peut guérir miraculeusement. Mais ce n'est qu'un signe précurseur. La libération du mal qui nous est acquise par la mort de Jésus ne sera appliquée à notre corps que lorsqu'il reviendra. Et du coup, le châtiment de mort qui affecte le corps humain, pour tous les hommes, continue de s'appliquer aux chrétiens aussi. Ce n'est plus qu'ils le doivent comme dette légale. Et c'est d'ailleurs pour ça que la dernière génération n'aura pas à subir cette mort. Ceux qui seront vivants au moment du retour du Seigneur ne connaîtront pas la mort, parce que ce n'est pas une exigence de dette légale maintenant. Mais tant que l'histoire continue, comme la rédemption n'est pas encore appliquée au plan du corps, ce jugement continue de toucher aussi les chrétiens, et c'est l'explication, à mon avis, de l'expression que nous avons au chapitre 4 de la première épître de Pierre. Il est question de ceux qui sont morts en Christ, et les lecteurs de l'épître s'inquiétaient à ce propos, et Pierre dit, au verset 6 du chapitre 4, « C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés de leur vivant, hein, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Lorsque nous recevons l'évangile, nous recevons la vie éternelle et nous sommes assurés de vivre selon Dieu quant à l'esprit, toujours. Mais ce n'est pas encore appliqué à notre corps et nous subissons encore le jugement selon les hommes pour la chair dans la mort du corps. Voilà, me semble-t-il, une explication des termes de ce verset. C'est par solidarité avec le reste de l'humanité sur un plan où la rédemption n'est pas encore appliquée. Elle ne corrige pas, voyez. Voilà le sens qui a parfois aussi le caractère de maladie, par exemple. Ça peut arriver. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, à propos des désordres qui se produisaient lorsque les Corinthiens célébraient la scène. Et ces désordres, c'était surtout l'horrible division sociale qui faisait que les plus riches s'empiffraient et même tiraient un peu trop sur la bouteille, alors que leurs frères crevaient de faim à côté d'eux, ils ne partageaient même pas, ils prétendaient que c'était le repas du Seigneur. L'apôtre Paul est très très indigné par cela, et il dit, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pas une condamnation comme le monde, de justice rétributive, mais c'est la discipline paternelle du Seigneur qui s'exerce pour les siens. Il y a donc une certaine correspondance aux actes, et en même temps, ce n'est pas strictement de la rétribution. Ces grands accents de l'Écriture sur la justice qui nous est donnée en cadeau, comme je l'ai indiqué, ont été au centre de la prédication de la Réforme. Et traditionnellement, c'est ce qui a opposé les héritiers de Luther, de Calvin, y compris tous les baptistes, et les catholiques romains. Alors vous le savez, il y a eu grand retentissement, il y a environ un an, le 31 octobre 1999, quand des représentants très officiels de la Fédération luthérienne mondiale, d'une part, et de l'Église catholique romaine, ont signé un texte d'accord sur la justification. Une déclaration commune sur la justification. Et je vous ai promis de vous en dire au moins quelques mots. C'est un sujet que nous étudions dans le séminaire interdisciplinaire à la faculté de théologie évangélique cette année. Donc je suis encore en train de l'étudier plus en détail, mais je pense qu'il peut vous intéresser d'en savoir un petit peu plus. Le caractère le plus frappant de ce document, l'un des caractères les plus frappants, c'est qu'il est vraiment très officiel. Il ne s'agit pas simplement de théologiens, même mandatés, qui se seraient rencontrés et seraient tombés d'accord sur un même texte. Il y a eu le cardinal Cassidy, encore à l'époque, à la tête du Conseil pontifical pour l'unité chrétienne, pour le signer, et il y a eu l'approbation de la Congrégation pour la doctrine de la foi du cardinal Ratzinger, dont le cardinal Ratzinger est le chef, et le pape a donné son approbation. Donc c'est quelque chose qui a un poids particulier. Quels sont les éléments que je ferai ressortir? D'abord, je pense qu'on peut dire que les représentants catholiques du groupe, signataires, au bout du compte, avec Cassidy, ont été plus loin, sans doute, dans la reprise de formules caractéristiques de la réforme, que la plupart des protestants n'imaginaient qu'ils pourraient le faire. Et je voudrais vous lire quelques-unes des formules qu'ils ont employées. Ça, c'est le premier point. Ensemble, enfin, c'est le paragraphe 15, par exemple. Oui, je commence déjà au verset 15. Justification signifie que Christ lui-même est notre justice. Nous participons à cette justice par l'Esprit Saint et selon la volonté du Père. Nous confessons ensemble, c'est seulement par la grâce, par le moyen de la foi en l'action salvifique du Christ, et non sur la base de notre mérite, que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons l'Esprit Saint qui renouvelle nos cœurs, nous habilite et nous appelle à accomplir des œuvres bonnes. Au paragraphe 17, le message du témoignage néo-testamentaire nous dit que pécheurs, nous ne devons notre vie nouvelle qu'à la miséricorde de Dieu qui nous pardonne et fait toutes choses nouvelles, une miséricorde que nous ne pouvons que nous laisser offrir et recevoir dans la foi, et que nous ne pouvons jamais mériter sous quelque forme que ce soit. Paragraphe 25. Nous confessons ensemble que le pécheur est justifié au moyen de la foi en l'œuvre salvatrice de Dieu en Christ. Dans la foi justifiante, la personne humaine place sa confiance en la promesse miséricordieuse de Dieu, une confiance qui inclut l'espérance placée en Dieu et l'amour. Cette foi est active dans l'amour, c'est pour cela que le chrétien ne peut et ne doit demeurer sans œuvre. Mais tout ce qui dans la personne humaine précède et suit le don libre de la foi n'est pas la cause de la justification et ne la mérite pas. Et on pourrait encore lire d'autres paragraphes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, luthériens et catholiques se sont aussi accordés dans plusieurs de ces passages pour attribuer au baptême d'eau, qui en général est administré chez eux à des tout-petits-enfants, pas exclusivement, mais le plus souvent, ils se sont accordés pour donner au baptême d'eau le rôle de l'instrument et du lieu de cette justification. C'est dans le baptême que, disent-ils, nous sommes justifiés. Dans le paragraphe 25, j'ai sauté la phrase, mais maintenant je la lis, ce salut nous est offert par l'Esprit Saint dans le baptême, en tant que fondement de toute sa vie chrétienne. Alors là, évidemment, c'est une déclaration qui, pour nous, est quelque peu difficile à avaler. Je pense qu'on peut comprendre que des luthériens, en tout cas des luthériens du genre majoritaire, je pense qu'il y a des luthériens évangéliques qui ne seraient pas d'accord, mais que des luthériens du genre majoritaire aient pu signer cela, mais par rapport à nous, voyez l'écart. C'est pas sans lien avec un troisième point. Ils ont signé ces paragraphes, mais que faut-il dire de choses qui semblent liées à la justification par la foi et sur lesquelles il n'y a pas d'accord? Ils se sont surtout accrochés sur une formule: est-ce que la justification par la foi est le critère de toute la doctrine de la vie chrétienne, ou simplement un critère? Les catholiques veulent dire un, les luthériens veulent dire le. Je pense qu'au plan formel, c'est un peu une dispute de mots. Moi, je ne suis pas sûr. Je voudrais dire que la justification est le critère. Je ne vois pas de raison biblique de privilégier cette doctrine, même si elle est au centre, vraiment au centre, par rapport à d'autres. Toutes les doctrines doivent, qui sont enseignées par la Bible, doivent servir de critère. Mais en fait, ce qui se cache, c'est ce que André Birmelet, qui est professeur de théologie systématique à la faculté protestante de Strasbourg et qui est un grand spécialiste des dialogues écuméniques, qui a beaucoup suivi toute cette affaire, il dit: la vraie difficulté réside dans la contradiction entre la compréhension du salut et l'ensemble de la vie cultuelle, sacramentelle et ministérielle quotidienne. Sur la compréhension du salut, de la justification, il semble qu'il y ait accord dans les termes, mais le reste. De nombreuses conceptions théologiques, pratiques et habitudes ne sont pas compatibles avec les affirmations de la Déclaration commune sur la justification. Les protestants peuvent rapidement et légitimement interpeller de nombreuses options de la vie catholique. Voilà, ça c'est le troisième point. On se demande, quand on voit les catholiques signer un tel document, comment alors tant de choses qui sont traditionnelles dans le catholicisme et puis continuent de pratiquer peuvent coexister pour eux. Et on se demande du coup, par choc en retour, si l'accord est vraiment si profond que ça, les mots sont employés dans le même sens. Alors ma quatrième remarque, c'est que si l'on considère l'expression, les mots et les concepts mis en œuvre, je pense qu'il y a moins d'ambiguïté que, disons, dans la plupart des documents œcuméniques de même sorte. Très souvent, ils jouent sur des doubles sens de mots, ou en tout cas sur un certain flou. Ce n'est pas tellement le cas de ce document-là. On peut saluer cette recherche d'une certaine rigueur. Mais, à mon impression quand même, il y a des questions qui restent posées. Est-ce que le mot de justification est pris dans son sens biblique clé d'une déclaration de justice, d'acquittement au tribunal? C'est pas parfaitement net. Très souvent, il semble être purement et simplement synonyme de pardon. Alors, je crois que c'est très près du pardon, mais qu'il y a peut-être une note qui manque, le sens de la rigueur de la justice de Dieu, précisément. Et par rapport à ce lien à la justice de Dieu, comme nous l'avons vu pour la Bible et pour Luther et Calvin, la justification par la foi et le châtiment substitutif, Jésus-Christ a payé la dette de notre péché, on a subi la punition à notre place, ce sont deux doctrines qui sont extrêmement solidaires. Or, la doctrine du châtiment substitutif du Seigneur Jésus, elle n'est pas niée dans le document, mais elle n'est pas nettement affirmée non plus. Il y a le mot expiation une fois en citation de Romains 3, mais jusqu'où vont-ils? Évidemment, je suis particulièrement soupçonneux à cet égard, parce que je sais que l'immense majorité des théologiens patentés dans le catholicisme d'aujourd'hui refusent de considérer la croix de Jésus comme un châtiment substitutif. Alors, je pense que là aussi, je ne me sens pas tout à fait à l'aise par rapport à ce que je lis. Et puis, il y a encore une assez nette question, où là, il laisse apercevoir un écart entre luthériens et catholiques. Il s'agit de l'assurance du salut. Ils sont prêts à l'affirmer, mais les catholiques tout de suite ajoutent un commentaire qui me semble remettre en cause. C'est pas un sujet très facile à exposer, de toute façon. Je crois qu'il faut dire que nous aussi, nous avons à bien distinguer entre l'assurance du salut et une sécurité charnelle. L'assurance du salut, ce n'est pas « Oh ben maintenant je peux faire ce que je veux, j'ai mon ticket ». C'est vrai que pour exposer cette doctrine implique une certaine finesse dans la docilité aux Écritures. Mais il me semble que subsiste un écart entre la position luthérienne, qui est aussi celle des calvinistes et des baptistes, et celle des catholiques dans ce document. Le document, d'ailleurs, dans son paragraphe 43, reconnaît qu'il y a beaucoup d'autres questions qui doivent encore être discutées. Qu'il y a un accord sur les points fondamentaux concernant la justification, mais même pas toute la doctrine de la justification, et qu'il y a d'autres points connexes qui devraient encore être débattus. C'est très honnêtement dit. Ce qui veut dire que l'étendue, la profondeur de l'accord reste encore à mesurer. Voilà quelques mots en ce qui concerne ce sujet. Alors, je crois que j'ai atteint mon temps et que je ne vais pas traiter de mon troisième volet. Je vais voir comment... Peut-être vais-je le développer en troisième partie. Je comptais simplement consacrer deux séances au sujet, mais finalement, le sujet que nous avons touché est tellement central que je ne me repens pas de lui avoir donné pratiquement tout le temps, et que je pense que je vais réserver la troisième partie, en la développant un peu, à une prochaine séance qui sera, je suppose, en janvier. Parce que je crois qu'en décembre, nous n'avons pas de séance de l'Institut biblique. Le 21 janvier, normalement, parce que les trois autres dimanches, je suis pris ailleurs, je prêche ailleurs. Mais... Alors, y a-t-il maintenant quelques questions sur ce que j'ai dit aujourd'hui, Christian? Alors, je pense que tu fais allusion à l'encyclique, ou c'était pas une encyclique, non, au texte intitulé Dominus Jesus, Seigneur Jésus, qui vient du cardinal Ratzinger, qui est le grand théologien du pape, pourrait-on dire. Le cardinal Joseph Ratzinger est un théologien allemand, qui est devenu le grand responsable de ce qu'on appelait autrefois le Saint-Office, et qui s'appelle maintenant donc la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et c'est lui qui, en quelque sorte, doit veiller au respect de la doctrine. Les libéraux, les modernistes ne l'aiment pas du tout. Et sur un certain nombre de points, on peut dire que le combat de Ratzinger a des points communs avec le nôtre. Par exemple, dans Dominus Jesus, une très large partie est consacrée, et ça fait grincer des dents à beaucoup de gens, à l'affirmation qu'il n'y a qu'une seule voie de salut, le Christ, et que les autres religions ne sont pas des voies de salut. Cette affirmation, elle est commune en quelque sorte à Ratzinger et à Jean-Paul II, et aux chrétiens évangéliques, et pratiquement tous les autres voudraient la rejeter. Donc Ratzinger a ce profil, mais alors en même temps, il affirme, comme les plus conservateurs, que la seule véritable Église, c'est l'Église de Rome. Et que les autres, les protestants en particulier, sont des communautés qui ont des restes d'Église, des éléments ecclésiaux, mais en particulier qui n'ont pas le sacerdoce légitime, puisque la succession apostolique n'y existe plus, et qui, du même coup, ne peuvent pas célébrer l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie non plus n'y est pas valide. Alors, il le rappelle, c'est la vieille doctrine, mais depuis 30 ans, on semblait, du côté de Rome, masquer cela, jeter un voile sur le maintien de ses positions. Alors, je voudrais souligner que il n'est pas choquant en soi que, si c'est leur conviction qu'ils disent pareille chose que nous disons, en quelque sorte symétrique, moi je suis prêt à dire, si j'appelle l'Église romaine Église, c'est par politesse. Mais elle ne correspond pas à la définition de l'Église que je trouve dans la Bible, donc je ne pense pas qu'elle porte ce titre d'Église de plein droit au sens biblique. Donc, vous voyez, c'est symétrique de ce point de vue-là. Il faut être clair. Mais donc, il est sûr qu'il y a eu un coup de barre à droite avec la publication de ce texte, comme aussi avec la béatification de Pie X. Non, c'est pas Pie X, c'est Pie IX. C'est quelque chose, vraiment, je ne m'y attendais pas, hein, franchement. Je crois que ça correspond à des tensions internes très très fortes dans les milieux dirigeants du catholicisme mondial. Jean-Paul II béatifie Jean XXIII. Alors Jean XXIII, c'est l'idole des médias, c'est le bon pape, Fioretti, il a plu à tout le monde et tout, c'est le pape que tous les progressistes ont salué. Et puis il prend à côté, il béatifie Pie IX. Le pape antidémocratique qui a condamné les sociétés publiques comme des instruments sataniques. Dans le syllabus, il a fait tout un catalogue des erreurs modernes qui comprennent la société publique, etc. Moi, j'ai entendu Jean-Paul II, parce que j'ai fait une visite au nom des sociétés publiques, approuver le travail des sociétés publiques, nous encourager, etc. Et en même temps, il béatifie maintenant Pie IX, qui avait condamné cela. Je crois que c'était un gage donné aux tendances les plus conservatrices. Monsieur Jacques Richard.
Je suis un peu gêné au sens commun par cette relativisation de la question doctrinale. On a l'air d'être d'accord, là, sur la question du salut par la grâce seule, par la foi seule, sans les œuvres. Et puis, M. Pérelet nous dit que, au fond, on bute sur des questions de pratique courante. Mais la pratique de l'Église catholique est quand même animée à des dogmes, à des enseignements. Et la question des œuvres, le salut par la foi sans les œuvres ou avec les œuvres, il y a toujours le « et » qui s'ajoute, la parole de Dieu et la tradition, et il y a tout un ensemble de choses qui fait que la pratique est accrochée à un enseignement. Et là, justement, l'enseignement a l'air de devenir la vie, non équivoque. Et je n'en suis pas du tout certain, mais pas ce sentiment-là. Alors ça donne vraiment le sentiment du tout de langage avec ces histoires d'années saintes, d'indulgence, avec ce que je viens de dire sur ces deux papes qui sont canonisés, on a vraiment l'impression d'être remonté dans la famille. Alors on aimerait savoir si.
J'estime que l'accusation, disons, de dévaluer la doctrine est quand même injuste. À l'égard de ce dialogue entre luthériens et catholiques, il me semble qu'ils ont fait un gros effort proprement théologique, avec un souci de pouvoir exprimer des choses rigoureusement exactes pour les uns comme pour les autres. Il me semble que ce souci a été présent beaucoup plus que dans la moyenne des documents œcuméniques. Le document baptême Eucharistie Ministère du Conseil œcuménique des Églises est je dirais mille fois plus flou, confus, ambigu, etc., que ce document-là. Donc, je veux saluer cette volonté de rigueur. Oui, bien sûr. Mais ça, il faut bien reconnaître que Luther personnellement, est resté sacramentaliste. Hein. Ça, on ne peut pas non plus ignorer ce fait-là. Alors, je veux encore préciser, en réponse à ta question, puis je crois qu'il faudra que nous arrêtions, que ce n'est pas seulement avec des pratiques que Birmelet considère qu'il y a incompatibilité, mais aussi des croyances, mais aussi des choses qui s'enseignent couramment et qui sont donc relatives à l'exposition de la foi dans le catholicisme. Ces tensions sont présentes aussi là. Puis, je ferai encore deux autres remarques, et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Il ne faut pas sous-estimer les subtilités et ambiguïtés des positions anciennes du catholicisme. En fait, hier, j'ai lu les commentaires critiques de Calvin, Le remède contre la poison, comme il dit, au texte, aux décisions du Concile de Trente, sur ce point précis, la sixième session du Concile de Trente. Vous savez, c'est pas si loin, malgré tout, du langage qui a été utilisé dans la déclaration commune, en fait. Il affirme aussi que tout est don de Dieu, par exemple, au Concile de Trente. Alors, il les accuse d'autocontradiction, de tensions internes, hein, Calvin, dans son commentaire, mais c'est présent dans les textes. Et d'ailleurs, j'ai lu aussi sa réaction très très forte à un texte de 1548, un intérim rédigé par des théologiens luthériens allemands et catholiques, et que Charles Quint voulait imposer dans tout son empire. C'est un texte qui a certains points communs avec la déclaration commune. Au XVIe siècle aussi, il y a eu des textes un peu de compromis. Et puis, dernier commentaire, je crois quand même sentir, c'est très très léger, hein, donc je ne peux pas le prouver absolument, qu'il y a quand même un soupçon de modernisme chez ces luthériens d'une part et chez ces catholiques d'autre part, qui ont rédigé cette doctrine. Que les catholiques, par exemple, sont très prêts à dire « Tout est grâce, tout est don de Dieu », pas tellement à partir de l'option « Jésus a porté tous nos péchés », mais à partir de l'idée « L'amour de Dieu couvre tout ». Une idée de l'amour de Dieu qui est beaucoup plus moderne. Et que les luthériens, de leur côté, ne sont pas tellement au clair sur la justification comme un acte légal d'acquittement au tribunal. Il y a quelques années, ils ont eu de grands débats entre eux. Et donc, je pense qu'il y a des faiblesses légères des deux côtés. Ce n'est pas là simplement la conjugaison de deux positions classiques. Voilà donc où j'en suis. Et s'il y a d'autres questions sur l'ensemble du sujet, vous pourrez aussi les poser. Après que j'aurai fait un exposé qui sera peut-être un petit peu plus court sur ma troisième partie d'aujourd'hui, Dieu voulant, donc le 21 janvier.